Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel on va prendre de la hauteur.
Il avait déjà bouclé un tour du monde en solitaire à la voile. Maxime Sorel, arrivé 10e du dernier Vendée Globe, a accompli dans la nuit de mercredi à jeudi un autre exploit en atteignant le toit du monde, l'Everest, 8848 mètres.
Le récit de cette ascension, vous pouvez toujours le réécouter dans un précédent épisode de Focus en version hors série, cette ascension de Maxime Sorel. Mais ici, je voulais que l'on s'interroge sur les conditions dans lesquelles aujourd'hui on accède au toit du monde. 70 ans tout juste après sa conquête, l'Everest est-il devenu une attraction touristique comme une autre ? Est-il victime de son succès ? C'est ce que l'on va voir avec mes deux invités. D'un côté, Jean-Michel Asselin, journaliste, Himalayis. Vous venez de signer une histoire de l'Everest aux éditions Glénat. Bonjour à vous.
Bonjour.
De l'autre, Charles Duboulot, figure de l'alpinisme français, également guide de haute montagne. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez respectivement 71 et 34 ans. C'est un peu le regard de deux générations aussi de pratiquants et de connaisseurs de la montagne que l'on va confronter. Pour le commun des mortels, hein, l'Everest, c'est un lieu inhospitalier, aussi inhospitalier que fascinant, comme l'avait montré le film hollywoodien éponyme en 2015.
Je sais que vous êtes tous des alpinistes aguerris, sinon vous ne seriez pas ici. Mais l'Everest, c'est l'endroit le plus dangereux sur Terre. Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Nos corps vont littéralement mourir. Le jeu consiste donc à vous conduire au sommet et à vous ramener en bas avant que ça se produise.
Alors, je voudrais que vous, qui connaissez la haute montagne et ses terres himalayennes, vous nous disiez ce que c'est pour vous l'Everest. Ça représente quoi pour vous, Jean-Michel Asselin, vous qui avez tenté à 5 reprises de le conquérir ?
Voilà, à 5 reprises, je ne suis jamais arrivé en haut, effectivement, à 2 fois 50 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas beaucoup et en même temps énorme. Pour moi, l'Everest, c'est d'abord toute une véritable histoire. Et en écrivant ce livre, une histoire de l'Everest, j'ai voulu réenchanter un peu cette montagne parce que je trouve que, ok, on peut caricaturer et dire l'Everest, c'est des poubelles, l'Everest, c'est beaucoup trop de monde, l'Everest, c'est beaucoup trop cher. C'est pas une image très très extraordinaire de ce qui est quand même le toit du monde, la déesse mère, la Chumulungma, comme disent les Tibétains. Donc pour moi, l'Everest, ça a toujours été ça, à savoir une montagne qui est pas très très belle, hein. C'est pas le Cervin, c'est pas la Mada Blanc, c'est pas le Machapucharé, mais c'est cette masse incroyable qui nous permet de temps en temps, si on a de la chance, de la persévérance, de marcher à l'altitude des avions de ligne. Et ça, c'est très intéressant.
Charles Duboulot, vous qui avez signé des ascensions exceptionnelles, les grandes Jorasses dans le massif du Mont-Blanc par la face nord, l'ouverture d'une nouvelle voie même dans l'Himalaya au Chamlong en 2021, il y a aussi du défi dans l'Everest ?
Alors, comme l'a justement dit Jean-Michel, effectivement, pour moi, le simple défi, c'est de se représenter le plus haut sommet du monde, ça reste quand même le point culminant de notre planète, donc forcément c'est très attirant. Et puis rien que pour ça, rien que pour tout rêve de grimpeur, d'alpiniste qui rêve de s'élever et de monter un petit peu, oui, effectivement, l'Everest, ça reste une énorme source de motivation. Après, les alpinistes y ont réalisé des vraies prouesses il y a 70 ans. Il y a encore des défis à réaliser sur l'Everest, tels qu'ils sont faits aujourd'hui sur les voies normales. Jean-Michel disait qu'on n'évoquait plus, l'Everest n'évoquait plus autant de rêves avec toutes les images qu'on peut voir. Mais finalement, l'Everest, ce n'est pas que ça. Ça peut être un peu comme le Mont Blanc chez nous. Ce n'est pas que la voie normale. Il y a aussi beaucoup d'autres choses sur cette montagne. Et effectivement, elle fait quand même rêver tous les grimpeurs du monde.
C'est une ascension sur laquelle vous pourriez vous projeter ?
Non, alors, très personnellement, moi, ça ne m'intéresse. Enfin, l'Everest par la voie normale, telle qu'on l'évoque, ne m'intéresse pas du tout. Non, je serais plutôt intéressé d'aller faire des ascensions beaucoup plus difficiles et plus techniques à des altitudes plus modestes que sur celle de l'Everest.
L'Everest, pour lequel plus de 450 permis d'ascension ont donc été délivrés, avec des images qui chaque année se répètent. Vous l'avez évoqué, hein, Jean-Michel Asselin, raconté ici, par exemple, il y a 4 ans dans RTL Matin.
8h40, notre revue de presse, Amandine Bégaud, et on commence ce matin, Amandine, avec une photo.
Oui, une photo complètement dingue qui fait la une du New York Times. Elle avait été publiée ces derniers jours dans La Croix et dans Le Figaro. Cette photo, c'est celle de ces embouteillages au sommet de l'Everest. Plus de 300 personnes qui font la queue, serrées les uns contre les autres pendant des heures. Tout ça à plus de 8000 mètres d'altitude. On se croirait dans un zoo. C'est effrayant, se désole un médecin américain qui toute sa vie a rêvé de gravir le plus haut sommet du monde. Une fois arrivé sur place, il raconte avoir été choqué par ce qu'il a vu, ces grimpeurs qui se bousculent pour prendre des selfies à 15-20 sur la partie plate du sommet qui n'est pas plus grande que deux tables de ping-pong. Ed Doering explique aussi, et c'est sans doute le plus terrifiant, avoir dû contourner le corps d'une femme qui venait de mourir. Oui, car c'est là tout le problème. Au-delà de la foule, cette saison a été l'une des plus meurtrières sur l'Everest. Au moins 11 morts, 10 en une semaine. Certains, explique le New York Times, attirés par l'appât du gain, n'hésitent plus à emmener avec eux des alpinistes complètement inexpérimentés. Même chose pour le gouvernement népalais qui, d'après les spécialistes, délivre bien plus de permis d'ascension qu'il n'en devrait. Or, dans cette zone, qu'on appelle la zone de la mort, les conditions sont extrêmement difficiles. À plus de 8000 mètres d'altitude, l'oxygène se fait très vite rare, sans compter les risques de gelure. Le moindre retard, une ou deux heures d'attente, est fatal.
Alors, ce qu'on vient d'entendre pose évidemment plein de questions. D'abord, Jean-Michel Asselin, vous qui avez fait votre première ascension en 1989, la dernière en 1993, c'était déjà comme ça à l'époque ?
Non, pas du tout. Pas du tout. La plupart du temps, on s'est retrouvés quelques-uns vraiment dans une solitude absolue, en train de faire la trace. Quand il y avait des Sherpas, on aidait à mettre les cordes fixes, on portait moins qu'eux, parce qu'ils sont vraiment très forts, et ce sont eux les vrais héros de l'Himalaya, mais on portait quand même du matériel. Bref, non, ça ressemblait pas du tout aux images que je vois aujourd'hui, et qui sont, ben oui, après, faut avoir envie de vivre un truc pareil. Personnellement, je pense pas que j'aurais aimé. J'ai aimé le côté aventure de l'Everest. J'ai aimé me planter parce que j'étais pas très bon, parce que j'en avais marre de faire la trace, etc. Mais pas d'être dans une queue de 300 personnes. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je peux même pas vous dire ce qu'on doit éprouver, mais c'est pas de la montagne.
Mais ça veut dire, donc, vous citez l'aventure que vous aviez vécue à l'époque. Ça veut dire, Charles Duboulot, ça rejoint un peu ce que vous disiez aussi. Il y a moins d'aventures aujourd'hui sur l'Everest telles que l'alpinisme y est pratiqué aujourd'hui sur ces voies ou sur cette voie principale ?
Alors, quitte à être un tout petit peu radical, pour moi, il y a un grand nombre de personnes qui tentent l'Everest ou qui veulent monter à l'Everest ou sur des sommets de plus de 8000 mètres, hein, sur un des 14-8000, qui ne sont pas des alpinistes. Et moi, je ne les appelle pas alpinistes. Pour moi, ce sont des marcheurs d'altitude. Je l'appellerais plutôt comme ça. C'est tout simplement ce qui a été justement dit dans le petit reportage audio qu'on vient d'écouter. Ce sont des gens qui n'ont pour la plupart strictement aucune expérience. J'étais très surpris cet automne d'être sur les pentes du Manaslu, donc un sommet qui monte à plus de 8000 mètres, croiser des gens sur la voie normale. On y était uniquement pour s'acclimater. Nous, on avait la volonté d'ouvrir une voie dans un versant complètement sauvage et vierge, de voir des gens qui ne savaient même pas mettre des crampons. Moi, ça me choque en tant que montagnard, en tant qu'alpiniste, de voir ça, et je comprends ce que dit Jean-Michel, simplement qu'aujourd'hui, ça l'attirerait sans doute beaucoup moins, et que lui, à l'époque, il y avait une vraie idée d'aventure. Moi, je vais en montagne pour vivre des choses, pour l'aventure, pour que ça me sorte de tout ce que je pourrais avoir à des altitudes plus basses, comme celles qu'on a dans nos montagnes. Et en fait, se retrouver là-haut, entouré de gens, moi, ça me fait, pas du tout rêvé.
On cite souvent, Jean-Michel Asselin, ce nombre de permis délivrés, plus de 450 chaque année. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que ça a été exponentiel ces dernières années ?
Oui, c'est quasiment exponentiel. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une manne financière qui est importante. Importante pour le gouvernement qui délivre les permis, sachant que ça coûte à peu près 11 000 euros le ticket par personne. Hein. C'est un ticket qui vous donne rien. Hein. C'est juste le droit d'aller sur la montagne. Et puis alors après, pour les agences qui organisent l'Everest, que ce soit des agences occidentales ou la plupart du temps maintenant népalaises, parce que les Népalais ont pris leur destin en main, eh bien ça coûte très cher. Donc il y a une véritable manne financière qui part chaque année, et donc les gens sont pas prêts d'y renoncer, quoi. C'est ce qui est incroyable, c'est que au prix de 100 000 euros, 150 000 euros parfois, il y a toujours des clients. C'est merveilleux.
Il y a donc ces 450 et quelques permis qui sont délivrés, mais en plus des grimpeurs autorisés, il faut compter les Sherpas, l'ensemble de celles et ceux qui accompagnent. En fait, au total, ça représente combien de personnes autorisées sur l'Everest et pour quelle durée ?
Oui, plus de 1000 personnes autorisées, parce que vous avez 450 permis, ce n'est pas 450 personnes, c'est 450 permis accordés pour des experts où il va y avoir peut-être 10 personnes. Donc, vous voyez, ça va monter très vite les chiffres. C'est pour ça que je pense que 1000 personnes, je suis peut-être très en dessous du chiffre qu'il y a. Puisque je crois qu'il y a à peu près 400 personnes qui ont fait le sommet cette année.
Ah
donc,
oui.
Vous voyez. Et sur ces 400 personnes, vous mettez, la moitié sont des Népalais. Soit Sherpa, soit d'autres ethnies.
Ouais, d'où aussi donc ces bouchons, ces images d'embouteillage humain en altitude. Ah ben. Je voudrais d'ailleurs vous faire écouter ce que disait justement Maxime Sorel, ce navigateur alpiniste, à son retour de l'Everest dans On défait le monde sur RTL.
J'ai vu des tonnes de gens qui ne sont pas prêts à gravir l'Everest, qui rêvent de toucher le sommet, mais qui sont vraiment pas prêts. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé dommage sur cette ascension.
C'est-à-dire qu'on les voit en montant, quoi.
On voit des cadavres en montant ?
Ou en descendant, ouais.
Ouais. C'est quand même traumatisant un peu, non ?
On sait que ça existe. Tout le monde sait que, voilà, on se dit qu'il y a du monde sur l'Everest. Là, clairement, il y a beaucoup de gens sur notre nuit d'ascension qui ont été surpris un peu des températures et qui n'avaient pas forcément le bon matériel et qui ont perdu beaucoup d'énergie à essayer de lutter contre le froid et malheureusement qui y restent.
Ouais. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, Charles Duboulot. On parle là de préparation, on parle là d'équipement. Alors c'est peut-être une question basique pour vous, mais quand on demande un permis, est-ce qu'il faut montrer qu'on est expérimenté ou il faut être juste capable de payer les 11 000 euros demandés ?
Il faut simplement être capable de payer les 11 000 euros demandés. Non, il n'y a pas besoin de justifier de quelconque liste de courses ou de quelconque expérience. Et puis, de toute façon, ce serait tellement difficile à vérifier des gens venant de l'étranger. Comment on pourrait réellement vérifier ce qu'ils ont fait ? De toute façon, voilà, ça reste un système qui repose sur des moyens financiers. Hein, et après, c'est très difficile de dire ou de critiquer ce modèle, parce que moi j'imagine en tant que guide de haute montagne, par exemple dans les Alpes, je pourrais dire que sur le Mont Blanc, parfois il nous arrive d'emmener des clients qui n'ont pas forcément le niveau d'aller au sommet du Mont Blanc par la voie normale, et tout simplement on y va parce que c'est la façon à beaucoup de guides de vivre. Donc j'estime qu'on emmène des gens qui n'ont pas spécialement le niveau. Comment on fait ? Eh ben on rallonge la durée d'ascension, au lieu de le faire en une journée ou en deux jours, eh bien on va le faire en trois jours, quatre jours, on va s'arrêter, on va passer plus de temps en refuge. Donc finalement ils sont à peu près dans la même chose. Bon, c'est sûr, à des altitudes qui sont beaucoup plus élevées, mais voilà, c'est leur façon de vivre. Et pour expliquer un tout petit peu plus les bouchons, vous voyez, il faut comprendre que sur un 8000 comme ça, où il y a 450 permis de délivrer, ça fait à peu près, ouais, on pourrait dire 1500 personnes sur la montagne, les créneaux sont très courts. On parle de créneaux de 2 mois, mais c'est pas ça. Dès qu'il y a un créneau où il n'y a pas de vent favorable à l'ascension, en 48 heures de jour, c'est des créneaux qui sont pas très longs, hein. Tout le monde va sur la montagne. Donc ça fait quasiment d'un coup 800 personnes au même endroit. Forcément, ça fait ces embouteillages et toutes ces images qu'on voit. Il faut imaginer, hein, que là-haut, on peut pas y être tous les jours, même si on a l'impression qu'en bas, il fait beau et qu'il n'y a pas de vent. Il se passe pas la même chose à 8000 mètres. Donc les créneaux, en fait, ils sont finalement d'ascension pour les gens qui veulent gravir la voie normale, très courts sur la saison. Donc les gens, souvent, sont au camp de base, attendent le bon moment pour pouvoir essayer.
Et il n'y a pas d'équipement de base requis, je sais pas, des gants doubles, un certain type de matériel. Maxime Sorel, comme vous d'ailleurs, avait l'air de décrire des gens qui sont pas forcément très bien équipés.
Non, mais moi je pense qu'aujourd'hui l'équipement il est quasiment pareil pour tous les gens. Ça reste très basique, surtout si la personne est capable de mettre 11 000 euros juste pour avoir son permis, il est capable de s'acheter une doudoune en duvet, ça n'aurait pas posé trop de problèmes. Donc moi je pense pas que ce soit vraiment un problème d'équipement, je pense que c'est plutôt un problème d'expérience,
de pratique, de
volonté. Puis voilà, après ça reste de la haute montagne, hein. Ça reste c'était très romancé dans dans ce qu'on a écouté au début, mais oui, effectivement, au-delà de 8000 mètres, ce sont pas des altitudes où on peut vivre, où l'humain peut survivre à long terme, même à, on pourrait dire qu'au bout d'une semaine, il est complètement dégradé, il est obligé de redescendre s'il n'a pas recours à l'oxygène. Donc voilà, ça fait partie des risques de ces ascensions. Et le fait d'y mettre énormément de gens sur ces montagnes, forcément, on arrive à un moment où il y a des embouteillages et où il y a des fins qui sont malheureuses.
Et en tout cas, 70 ans après la première ascension par Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay, le 29 mai 1953, on estime que plus de 6000 alpinistes ont gravi l'Everest. Jean-Michel Asselin, vous qui l'avez tenté à 5 reprises, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes jamais arrivé au bout ?
Oh ben, je ne suis pas arrivé au bout parce que une fois, c'était simplement des conditions météo qui étaient violente et le Sherpa qui était avec moi, on a cassé une corniche, on a failli partir dans le vide, et ça à 8700 mètres d'altitude. Donc il m'a dit, ben, it's time to go back. Et puis une autre fois, c'était beaucoup plus prosaïque que ça, c'était tout simplement parce que je n'avais pas pris de corde pour franchir le ressaut Hillary. J'étais avec deux autres personnes et on était comme deux ronds de flanc, on attendait quelque chose se passe. On pensait qu'il y avait pas mal de gens qui étaient partis le matin et malheureusement, ils n'arrivaient pas. Quand ils sont arrivés, il était déjà à 15h30 de l'après-midi, et ça faisait presque 3 heures que nous n'avions plus d'oxygène dans nos bouteilles, et donc on commençait à avoir très froid, à être un peu fatigué, et quand les deux Espagnols ont franchi, grâce à leur corde, le ressaut Hillary, et qu'ils nous ont invités à les suivre, c'était trop tard pour nous, on est redescendu, et bien nous en a pris, puisque nous sommes encore là, vivants et heureux. Mais je crois qu'il y a un très gros malentendu sur l'Everest, c'est que on fait croire aux gens que parce qu'il y a du monde, parce que maintenant il y a des très bons routages météo, etc., très bon matériel, on leur fait croire que finalement c'est assez facile.
On l'a banalisé, l'Everest aujourd'hui.
Même si on a payé 150 000 euros, ça reste une montagne qui est très dure. L'altitude, c'est dur, on va faire des efforts, on va avoir froid, et en plus, on peut mourir. Si les gens avaient beaucoup plus conscience de ce que c'est que cette montagne, de ce que c'est que l'altitude, je pense que les choses changeraient terriblement. Mais voilà, l'Everest, il est injuste, parce qu'il fait arriver des gens au sommet qui parfois n'ont aucune expérience, et puis des très bons, je pense à Chantal Talmoudui qui l'a essayé 7 fois, je pense à Pierre Bégin qui est un très grand alpiniste qui l'a essayé 4 ou 5 fois, et ils ne sont pas arrivés en haut. Donc il y a des paradoxes terribles avec l'Everest.
On est capable de dire combien échouent chaque année, au-delà des victimes, plus de 300 personnes quand même en 70 ans, dont une douzaine cette année sans compter les disparus. Il y en a beaucoup qui renoncent ou qui ne parviennent pas au sommet, Jean-Michel Asselin ?
Oui, je crois que parfois on renonce assez facilement parce que ça devient trop pénible ou trop dangereux. Mais c'est vrai que la tentation, c'est toujours de pousser le bouchon un peu loin. On le raconte très bien dans le drame de 96 qui a fait servi de scénario au film qui s'appelle Everest et qui raconte comment un jeune Américain qui avait tenté l'Everest l'année d'avant et qui là se retrouvait sur la montagne a vraiment poussé son guide à l'emmener au sommet parce qu'il voulait pas renoncer. C'était à quelques mètres du sommet et il voulait à tout prix y aller. Alors il y est allé, mais il est mort avec son guide au retour. Donc ça, c'est le gros risque de l'Everest, quoi.
Et vous racontez aussi que votre guide, lors d'un de vos échecs, vous a proposé de mentir et de dire que vous y étiez parvenu, il n'y avait pas de témoin, c'était facile.
Oui, c'était un Sherpa qui était très gentil, qui était très fort d'ailleurs, et qui m'a dit, bon, si tu veux, on n'est pas loin, on dira qu'on est allé en haut. C'était gentil de sa part, mais franchement, je sais pas comment j'aurais vécu avec ça, à savoir dire aux gens, oh, vous savez, je suis celui qui a fait l'Everest. Non, aujourd'hui, ça m'embête, mais je suis celui qui n'a pas fait l'Everest et qui le fera jamais.
Mais qui avait vu, malgré tout, cette montagne, et dans ce que vous dites, on perçoit aussi toute la difficulté de cette ascension, particulièrement intéressante, donc au regard de l'engouement pour l'Everest, que commentait ainsi dans RTL Matin, l'alpiniste français François Damilano qui a atteint le toit du monde en 2014.
C'est un problème lié à tous les grands lieux emblématique de la planète. En fait, c'est le problème de l'hyperfréquentation touristique. Donc, l'Everest, comme le troisième pôle, bien évidemment, attire de plus en plus d'alpinistes et d'amateurs de montagne.
Est-ce qu'on peut considérer l'Everest comme un site touristique, finalement, comme les autres, Charles Duboulot ?
Alors, un site touristique de montagne, mais oui, j'ai l'impression que, en tout cas, le camp de base de l'Everest et le camp de base des sommets de 8000 mètres commencent à ressembler à des sites touristiques, effectivement. Tout simplement parce que bah voilà, il y a une espèce d'aura autour de ces montagnes où les gens n'y vont pas forcément justement pour l'amour de la montagne, mais ils vont plutôt pour cocher quelque chose. Et comme on irait faire une photo de je ne sais pas tel ou tel monument, eh bien on va à l'Everest en se disant bah, je suis pas spécialement expérimenté, je vais essayer d'aller au sommet. Et voilà, donc oui, pour moi ça pourrait quasiment représenter un site touristique. Et après, je dis ça et je le pense pour une certaine partie des gens qui sont au camp de base, et puis il y en a d'autres pour qui c'est des vrais rêves, qui ont vraiment investi du temps, de la préparation et qui sont allés. Il y a aussi tous ces gens-là, hein. Il faut pas que décrier ce qui est en train de se passer à l'Everest, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui ont un profond amour de la montagne, qui ont envie d'aller au sommet, qui n'ont pas de moyens de le faire sans prendre une voie normale ou sans prendre d'oxygène, mais qui pour autant se sont préparés et ont envie d'y aller aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu des deux. Mmh. Les deux font quand même 450 permis, fait que ça fait du monde, ça fait énormément de monde sur un tout petit créneau sur des montagnes très très hautes, et ça fait toutes les polémiques qu'on a un petit peu aujourd'hui. Mmh. Et les images un peu effrayantes qu'on peut voir.
Voilà, ce qui pose la question, tout ce monde aussi, des conséquences de cette fréquentation. Il y a eu récemment cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Au camp 4, à 7900 mètres d'altitude, où l'on voit des tentes au milieu d'un amas de détritus, plastiques notamment. À ce niveau-là, évidemment, à cette altitude-là, les poubelles ne passent pas. Ça vous a choqué, ça vous a surpris, vous qui avez fréquenté ces zones, Jean-Michel Asselin ?
Écoutez, non, la vue des poubelles, malheureusement, au camp 4 et dans d'autres camps et au camp de base, ça me choque pas parce que ça fait très longtemps que ça dure. C'est bien sûr une horreur qu'il faut absolument corriger. Les Népalais, par exemple, le font de plus en plus. On ramasse, on consigne les bouteilles d'oxygène. Bref, il y a un effort de ne pas salir cette montagne, ça c'est très important. Mais en revanche, il faut pas tomber dans le piège de croire que on va sauver le Népal parce qu'on aura nettoyé l'Everest. Le problème, il est pas sur les pentes de l'Everest. Le problème est à Katmandou. Le Népal est un des pays les plus pauvres du monde. Et les poubelles, si vous les redescendez au camp de base et qu'elles finissent à Katmandou sur les monceaux de déchets que sur lesquels des gens vivotent, ramasse tout ça, ça va pas.
Finalement, on a presque un regard un peu triste et sombre de cet Everest, de cette montagne, malgré tout absolument fascinante. C'est sans doute aussi ça qui fait rêver autant de gens. Mais si vous deviez dire quelques mots pour réenchanter cette montagne, après tout ce qu'on s'est dit, quels seraient-ils ces mots ?
Eh bien, écoutez, après tout ce qu'on s'est dit, je dirais que c'est une expérience, pour moi, c'était une expérience merveilleuse. Je suis redevable à l'Everest de m'avoir inspiré dans ma vie plein de choses, les livres que j'ai écrits, mais aussi le bonheur de me souvenir à 71 ans de ces petits moments que j'ai vécu, le lever de soleil à 8005 qui illuminait le monde entier. Voilà, je me sentais à ma place. L'Everest, c'est une merveille, c'est une déesse, et je suis ravi de l'avoir rencontrée de temps à autre. Et je suis ravi qu'elle m'ait recraché 5 fois sans me faire de mal.
Et vous, Charles Duboulot ?
Eh bien, alors, il y a la montagne de l'Everest, et puis il y a toute la chaîne himalayenne qui est absolument fabuleuse. Enfin, c'est incroyable, ça reste des étendues géniales, que ça soit pour nous, les grimpeurs, les alpinistes, ou même pour les gens qui ont la chance et le plaisir de pouvoir aller faire des treks ou s'y balader. Ça reste un univers complètement fabuleux pour tous les gens qui aiment être dehors. Et l'Everest continue d'animer tout le monde. C'est pour ça qu'il y a tous ces gens qui essayent d'y aller. Et d'un côté, il y a quand même quelque chose au fond de beau dans tout ça, c'est que les gens sont quand même attirés par le fait d'être dehors, d'essayer de se dépasser et d'essayer d'aller plus haut.
Ce sont des milieux aussi qui nous rappellent notre fragilité.
Un tout petit peu. Lorsqu'on commence à dépasser certaines altitudes et qu'on voit l'effroi, qu'on peut ressentir le manque d'oxygène et tout ça, on se sent absolument, absolument fragile. C'est peut-être ce qui nous donne un petit peu envie d'aller nous confronter à ça. Hein. Si l'Everest était facile, peut-être qu'il y aurait plus beaucoup d'intérêt. Donc oui, ces milieux nous rappellent notre grande fragilité et surtout notre difficulté à évoluer là-haut.
Merci à vous deux, Charles Duboulot, figure de l'alpinisme français, guide de haute montagne, et Jean-Michel Asselin, journaliste, qui vient de signer cette histoire de l'Everest aux éditions Glénat, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.